radio kasi ngonting mo.
Il est président de l'Ordre des pharmaciens, Georges Mvumbi Lelo, et celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Georges Mvumbi Lelo, c'est pour nous un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'être venu.
Merci aussi.
Nous allons d'abord faire le point de la pharmacie en RDC avant de parler de vous et d'aborder aussi l'actualité. C'est quoi l'Ordre des pharmaciens?
Cher ami Alain, je te remercie beaucoup de la question que tu me poses et je remercie aussi la radio Okapi de me donner l'opportunité de parler de la pharmacie. Eh bien, ami Alain, l'Ordre des pharmaciens, c'est un ordre. Mais c'est quoi l'ordre? Vous entendez souvent l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, l'ordre des architectes et l'ordre de ceci. Bientôt, on va peut-être avoir l'ordre des professeurs. Un ordre professionnel, c'est un ordre qui fait en sorte que il surveille les membres de cet ordre-là dans le cadre de la déontologie, dans le cadre de leur profession. Pourquoi un ordre? C'est un ordre tout simplement parce que ces types de professions qui sont la pharmacie, la médecine, l'architecture, le professorat, ce sont des professions pour lesquelles celui à qui on rend service fait aveuglement confiance. Et pour protéger les consommateurs de ces produits, l'État a créé ce type d'ordre. De la même façon, pour le pharmacien, on suppose, et c'est la réalité, que le bénéficiaire du service du pharmacien ne connaît pas exactement ce qu'est le médicament. Et alors, c'est pour cette raison que l'État a créé un ordre pour que cet ordre surveille le pharmacien dans les actes qu'il pose. Du fait que les médicaments qui vont être utilisés par la population, cette dernière n'est même pas au courant de la composition du médicament. Cette dernière fait confiance au pharmacien et suppose que le médicament qu'il va recevoir de main du pharmacien, c'est un médicament efficace,
de bonne qualité
et accessible à cette population.
Alors, au professeur Georges Mvumbi, quelle est la situation de la pharmacie en RDC aujourd'hui?
Ah, mais ça c'est une bonne question, mon cher ami Alain. Souvenez-vous que ce 21 septembre, notre ministre de la Santé, au cours du Conseil des ministres, a fait le constat et a présenté ses constats auprès de tous les ministres. Ces constats étaient basés sur à peu près 10 points. Le ministre Makwenge a parlé, entre autres, a donné l'information à ses collègues et au Premier ministre sur l'absence du plan directeur prioritaire dans le secteur pharmaceutique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'insuffisance de la couverture des médicaments dans les formations sanitaires. Le troisième point, c'est l'absence de la loi pharmaceutique adaptée, efficace et bien appliquée dans notre pays. Le quatrième point, ça concerne la circulation du médicament dans notre pays. Eh bien, on constate que dans notre pays circulent aussi bien des médicaments de bonne qualité et des médicaments de qualité douteuse. Le cinquième point, c'est encore sur les coûts du médicament. Par rapport à d'autres pays, le Congo a des médicaments dont les prix dépassent l'entendement. Tout simplement, mon cher ami Alain, parce que le médicament n'est pas encore considéré chez nous, au pays, comme un bien stratégique. Et partout ailleurs, dans les pays développés, et même dans les pays en voie de développement, vous constatez que le médicament est considéré comme un point stratégique. En d'autres termes, l'État s'y emploie pour que ces médicaments coûtent moins cher, soit à la portée de la majorité de notre population. Le sixième point, c'est que les établissements pharmaceutiques s'ouvrent de manière anarchique et vous les retrouvez partout. En d'autres termes, il y a une certaine démission de l'État, parce que n'importe qui peut ouvrir une pharmacie. Et encore, faut même pas l'appeler pharmacie, parce que ce que vous y trouvez, c'est des poissons qui tuent notre population. Le septième point, c'est la vente des médicaments. Ces médicaments sont vendus presque partout,
à n'importe quelle manière.
Et de n'importe quelle manière. Vous pouvez les trouver par terre. Si nous sortons avec vous maintenant, nous allons en ville, vous trouverez des médicaments par terre. C'est vraiment en dehors de la loi. Nous nous battons pour que ça puisse être déraciné.
Le huitième point,
c'est un manque de système d'assurance de qualité et de certification reconnue par l'OMS. Et le neuvième point, c'est les laboratoires d'analyse. Je vous ai dit que les médicaments qui circulent dans notre pays ont des origines douteuses. il faut un laboratoire de contrôle de qualité pour analyser et contrôler la qualité.
Le dixième et le dernier,
c'est la politique de recherche en matière de médicaments à base de médecine traditionnelle. Il faut améliorer ces médicaments parce qu'ils ont prouvé leur qualité, leur utilisation dans notre pays. Nous devons nous employer à rechercher, à améliorer les médicaments à base de la médecine traditionnelle. La situation de la pharmacie est très critique. Je vous dis les constats que le ministère de la Santé vient de faire. Ces constats partent du mémorandum que l'Ordre des pharmaciens a adressé à toutes les autorités du pays.
Radio Capi, grand témoin.
Professeur Georges Mvumbilelo, président de l'Ordre des pharmaciens, est celui que Grand Témoin reçoit aujourd'hui. En jetant un œil dans votre cursus académique, vous avez un parcours élogieux. Hein? Vous obtenez votre licence en pharmacie en 1975 à l'UNASA, une licence en sciences médicales de l'Université catholique de Louvain en 82, en 86, un doctorat en sciences médicales de la même université et trois diplômes des études postdoctorales en 91 à Alabama, aux USA en placentologie, en 2002 en VIH-SIDA à l'Institut Pasteur à Paris et 2003 en biologie moléculaire à l'Université catholique de Louvain. Pourquoi cet acharnement sur la formation?
Ah, mon cher élève, vous savez que, en plus d'être pharmacien, je suis un enseignant de l'université. Et un enseignant, un professeur d'université, reste étudiant, reste en formation jusqu'à la fin de sa vie. Voilà pourquoi nous continuons à rechercher les savoirs pour être compétitifs vis-à-vis des autres collègues qui sont dans le monde entier, mais aussi pour donner les savoirs à nos jeunes pour lesquels la relève doit être assurée.
Mais ne pensez-vous pas qu'à force des spécialités, nous avons l'impression que vous vous dispersez un peu, puisqu'on peut se demander si vous avez vraiment le temps de vous consacrer totalement à toutes ces activités.
Ça, c'est une très bonne question, mais moi, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Il faut plutôt poser la question à mes propres étudiants, à mes collègues, à la population qui reçoit nos services dans tous ces domaines-là.
Donc, c'est eux qui peuvent nous donner le résultat sur terrain.
Voilà.
Alors, professeur Georges Mvumbi, nous venons de le voir, vous avez un parcours académique élogieux, mais c'est où que vous faites vos études primaires et secondaires?
Les études primaires ont été faites d'abord là où je suis né, à Lemba dans les Mayombe, et puis après j'ai complété ces études primaire à Lukula, toujours dans les Mayombe, et l'école secondaire à Lukula, au collège César Lelwanga, et je les ai terminées, ces études secondaires, en Bassamboma, à Madimba, dans le Bas-Congo toujours.
Et là, vous avez fait l'option littéraire, latin-philo.
Oui, j'ai fait le latin-philo.
Vous m'avez avoué être d'un tempérament nerveux dans votre jeunesse, pourquoi?
Je ne sais pas, on acquiert ces gens-là peut-être par hérédité, mais bon, j'ai dû améliorer par le sport, par l'enseignement.
Et c'est quel sport que vous avez pratiqué dans votre jeunesse?
Dans la jeunesse, j'ai pratiqué beaucoup de sports, notamment le football, le ping-pong, le volley, le basket et le judo.
Et jusqu'à ce jour, vous pratiquez ce genre de sport?
Oui, nous pratiquons encore le football et le ping-pong, les sports de vétérans, parce que vous savez, j'ai 60 ans maintenant, hein.
Pourtant, vous n'en donnez pas l'air.
Le sport rajeunit toujours, et l'enseignement et la recherche, ça rajeunit.
Et je crois que les auditeurs qui nous suivent et qui souhaiteraient voir la photo du professeur Georges Mvumbi pourront aller sur le site de Radio Capi, où ils verront la photo. Il a toujours l'air heureux, très jeune. Du sport à la musique, il n'y a qu'un pas. Vous aimez aussi la musique?
Ah oui, très bien. J'aime bien la musique. Hein. D'abord la musique congolaise, hein, et puis après la musique étrangère.
À 60 ans, on dira bien sûr que vous êtes de la génération Calais, African Jazz, African Fiesta.
Non, beaucoup plus la génération Franco, Rochero, et Madilou et Yampanya.
Et dans la génération actuelle?
Je ne sais pas dire, mais j'ai l'impression que je m'intéresse beaucoup à la jeune génération qui essaie d'adapter la rumba congolaise. Je pourrais appeler Ferré, Fali Poupa, ce sont vraiment des musiciens que moi je considère comme des nouvelles générations qui vont faire leur nom.
Et qu'est-ce qui vous attire dans la musique de Ferré ou Fali?
Et c'est surtout, d'abord, la chanson elle-même, et puis la synthèse de la musique et l'instrumentation. Vous savez, il y a eu un temps où vous entendez la musique, mais vous n'entendez pas la parole. Le message donné n'est pas bien audible. Par contre, pour les deux musiciens que je viens de vous citer, vous remarquerez qu'ils se rapprochent de Franco et de Rossero, de Madulu et de Yampagna, lorsqu'il y a les chanteurs, l'instrumentation est réduite, tandis que lorsque vous entendez l'instrumentation, la parole est réduite. Et ça, c'est du rumba.
Et s'il vous était demandé de dédier une chanson à tous les pharmaciens qui nous suivent en ce moment, ce serait laquelle?
Ah, je demanderais qu'on mette associé aux pharmaciens du Congo.
Associé de Fally Ipupa.
De Fally Ipupa, oui.
Alors, professeur Mvumbi, suivons la chanson que vous avez demandée.
Ça, c'est une surprise.
Associé, l'empereur Tchatchumba Lakashubi. Ah, j'ai aimé bien le roi par rapport à sa arrière et Tanzanie. Mais fais ça pour vous, Lingot. Le président Malik Touré, très très fort.
Professeur Georges Mvumbi Lelo, président de l'Ordre des pharmaciens du Congo. Pourquoi vous avez demandé à associer, vous avez dédié associé aux pharmaciens du Congo?
Je crois que c'est beaucoup plus sur la musique. Et bon, les thèmes s'adressent peut-être à l'amour. Je pourrais même demander, c'est que pour réussir le secteur, la promotion du secteur pharmaceutique, il faut que les pharmaciens d'abord commencent par s'aimer et aimer aussi la population qui s'associe dans l'ordre des pharmaciens.
Et peut-être que par rapport à nous autres, vos patients, aux consommateurs des médicaments,
oui,
nous sommes des associés, n'est-ce pas?
Oui, vous êtes des associés aussi. Oui. Mais vous devez avoir confiance en nous pour qu'on vous donne des médicaments efficaces et de bonne qualité.
Et vous aussi, vous devez produire des médicaments de qualité de sorte à susciter notre confiance.
Justement, c'est vraiment la lutte que nous menons dans l'ordre des pharmaciens.
Alors, oui, dans cette association de cœur patients et pharmaciens, professeur, je vous invite à continuer à suivre la chanson.
Oh, merci beaucoup. Très bien.
Thank you.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir dédié cette chanson à tous les pharmaciens du Congo. Nous allons revenir au constat qu'a fait monsieur le ministre de la Santé par rapport à la situation de la pharmacie en RDC. Il me semble qu'il a parlé du produit, c'est-à-dire des médicaments, des infrastructures.
Mais il
n'a pas touché à la personne du pharmacien. Qu'en est-il?
En ce qui concerne le pharmacien, nous avons dit dans notre mémo qu'il n'y a aucune politique de formation continue pour les pharmaciens. Et ça, c'est du ressort de l'État d'assurer la formation continue. Les pharmaciens qui terminent continuent difficilement, sauf quand il est à l'université. Ensuite, le pharmacien n'est pas mis dans toutes les zones de santé. Vous voyez, il y a beaucoup d'organismes internationaux qui viennent ici. Très rarement, vous retrouvez les pharmaciens là-dedans. Quand vous prenez un pharmacien dans son secteur d'emploi, que ce soit dans la production, dans la distribution, mais le pharmacien n'est pas considéré parce que l'État ne le met pas à la place qu'il faut. Quand un jour vous rencontrez un pharmacien, posez la question, quel est le salaire moyen du pharmacien? Vous comprendrez que le pharmacien est abandonné à lui-même. Et dans ces conditions, le pharmacien ne peut pas produire un médicament de qualité, ne peut pas distribuer un médicament de qualité, il ne peut pas non plus enseigner les normes pharmaceutiques normales. La plupart des pharmaciens sont des patriotes. C'est pour cette raison que nous faisons la lutte de la promotion de l'assainissement du secteur pharmaceutique pour que le médicament qui soit mis à la disposition de la population soit un médicament efficace et de bonne qualité. Prenez le pharmacien de la troisième direction de l'État qui lui est censé de faire respecter les normes dans le secteur pharmaceutique. Eh bien, ces pharmaciens et laissés pour compte. Nous avons fait des propositions. Peut-être que si vous me donnez l'occasion, je pourrai vous en donner les propositions que nous avons faites aux autorités.
Alors, professeur Mvumbi, il y a peut-être une certaine confusion. Hein. Nous voyons dans nos cités, ici à Kinshasa, comme en province, il y a beaucoup de pharmacies, beaucoup de petites pharmacies, et il y a des gens qui vendent des médicaments dans ces pharmacies. Ces gens-là sont-ils aussi des pharmaciens?
Ça, c'est une très bonne question. Mais avant de répondre à votre question en ce qui concerne l'établissement pharmaceutique, la loi existe, même si elle est ancienne. Normalement, l'officine ouverte au public, ce que nous appelons pharmacie en langage normal, ne peut être ouverte que sur autorisation du ministre de la Santé. Et le ministre de la Santé a ses services. Malheureusement, c'est tout le monde qui ouvre la pharmacie. Vous prenez le responsable de la commune, il peut donner l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique. Le gouverneur peut donner. Mais normalement, c'est le ministre de la Santé qui doit le faire, et sur base d'un certain nombre de principes. Donc, tout ce que vous voyez là-bas n'ont pas une autorisation d'ouverture. Pour nous, il faut fermer ces maisons. Parce que des maisons qui provoquent la mort à notre population. Voilà où se trouve notre lutte.
Vous parliez des propositions que vous avez faites à l'autorité compétente pour améliorer les conditions des pharmaciens. Pouvez-vous nous en donner juste deux?
La première, c'est de créer, le gouvernement doit mettre en place la direction générale des pharmacies. Un peu dans le même sens que les DGRAD, un peu dans le même sens que de la contribution, etc. Non seulement pour assainir le domaine de la pharmacie, mais ça génère des recettes pour l'État. Et ces recettes peuvent permettre à ce qu'on augmente les salaires des pharmaciens. Or, aujourd'hui, ça ne se voit pas. Ça, c'est la première proposition que nous avons faite au gouvernement. Mais nous avons fait une autre proposition, c'est que le gouvernement doit privilégier l'industrie locale. Vous verrez dans tous les pays, d'abord, c'est l'industrie locale du médicament. Et pas faire venir tous les médicaments de l'extérieur. On ne peut importer des médicaments que quand ces médicaments ne sont pas fabriqués dans notre pays. Troisième proposition que nous avons faite, c'est de mettre le pharmacien là où il faut. C'est-à-dire, vous voyez, la plupart des pharmaciens sont concentrés à Kinshasa et à l'intérieur, ils ne sont pas là. Dans toutes les zones de santé, il y a très peu de pharmaciens. Or, vous ne pouvez pas avoir une zone de santé sans pharmacien. Parce que là aussi, on y traite du médicament. Vous voyez, la plupart du temps, lorsqu'une autorité veut faire sa publicité, il va donner des médicaments. Ça doit être interdit. C'est faire l'exercice illégal de la pharmacie. On ne peut pas distribuer des médicaments. On ne peut pas donner des médicaments sans qu'il y ait un pharmacien. Ça, c'est le rôle du pharmacien. Donc, nous pensons que le pharmacien doit être mis non seulement dans les zones de santé, dans les organismes internationaux, mais dans tous les niveaux où se fait d'abord la production jusqu'à la dispensation des médicaments auprès de la population.
Une délégation du ministère de la Santé était attendue mercredi 3 octobre dernier dans les zones touchées par Ebola. Un nouveau cas positif de cette maladie avait été confirmé par le laboratoire américain CDC. Il s'agissait d'une femme identifiée samedi 29 septembre dernier à Kampungu, environ 300 km de Kananga. Ce résultat portait le nombre des cas positifs à 25, 76 autres personnes étaient considérées comme étant suspectes. Le ministre de la Santé, vous l'écouterez, estimait alors que le virus est toujours en circulation. Victor Makwenge Kaput est au micro de Georges Kamujova.
Le nouveau cas d'Ebola qui vient d'être confirmé, ou arrivé à 25, a été prélevé le 29. Cela veut dire tout simplement que le virus est toujours en circulation dans cette zone et que l'épidémie n'est pas terminée, même si bien sûr on observe une diminution du nombre des cas suspects et des décès rapportés. Donc l'épidémie est toujours là. Bien sûr, la priorité du gouvernement congolais et de tous les partenaires est d'identifier et d'isoler tous les cas suspects d'Ebola et de suivre toutes les personnes qui ont été en contact avec des cas suspects afin surtout d'interrompre la chaîne de transmission. Vous savez que si vous contractez le virus aujourd'hui, il faut une incubation de 21 jours. Donc on ne pourra déclarer la fin de l'épidémie que lorsqu'on aura passé deux périodes d'incubation, c'est-à-dire 21 plus 21 jours sans nouveau cas.
Il faut signaler que d'autres maladies présentant les mêmes signes que Ebola sont présentes dans la zone de santé de Mweka. Professeur Georges Mvumbi Lelo, président de l'Ordre des pharmaciens, vous avez une réaction?
La première réaction que je dois faire, cette épidémie n'est pas la première de notre pays. C'est presque la troisième fois, c'est pas la quatrième fois qu'elle arrive.
malheureusement pour nous, nous avons encore réagi en retard, un mois après le premier cas. Et ça, c'est tout simplement parce que nous, les Congolais, nous sommes distraits. Vous avez dit que ça a été diagnostiqué aussi d'ici à 30 ans, mais aussi au Gabon, à Franceville. Et pourtant, nous avons un institut de recherche, l'INRB, où il y a le PECAS qui n'a jamais fonctionné. Jamais on pense à pouvoir le mettre en valeur. Ça, c'est un manque. Et ensuite, nous avons les parlementaires de cette région. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là pour donner l'information, pour sensibiliser la population? Donc, moi, je pense, s'il revient à notre pays de prendre les taureaux par ses cornes et de commencer non seulement de faire la sensibilisation de la population, mais aussi d'avoir des laboratoires de diagnostic et de recherche. On vous dit que c'est un nouveau cas. Nous aurons pu le trouver, nous, que c'est un nouveau cas, si on avait des laboratoires de recherche aussi performants que ceux qui se trouvent en Afrique, au Gabon, mais aussi à Sud-Ici. Pourquoi Gabon peut avoir et pas le Grand Congo?
C'est pendant des moments comme ça qu'il y a des praticiens qui viennent proposer des médicaments. Quelle est la réaction de l'ordre par rapport à ce genre de comportement?
Je pense que nous savons que pour le moment, il n'y a pas encore de traitement contre cette maladie-là. C'est beaucoup plus la prévention qu'il faut faire. Les études qui sont en train d'être faites pour trouver le vaccin sont encore assez loin et nous devons être associés à ces études-là. Aussi, les traducteurs praticiens profitent de l'occasion où il n'y a pas les services de l'État et il n'y a pas de sensibilisation. Si les traducteurs praticiens commencent à dire qu'ils peuvent soigner, et si la population est au courant, est sensibilisée, qu'il n'y a pas de médicaments, la population n'irait pas vers ces faux et charlatans traducteurs-thérapeutes. Par contre, je dois dire ceci, qu'il existe des bons traducteurs praticiens pour certaines maladies. Donc, il faut éviter de croire que dans la médecine traditionnelle, il y a du mauvais. Par contre, pour des maladies comme virus d'Ebola, il ne faudrait pas que la population commence à croire aux traducteurs-thérapeutes.
Mais il y a aussi, ces derniers temps, la médecine chinoise qui bat son plein dans notre pays. Quelle est la position de l'ordre par rapport à tous ces produits qui sont mis à la disposition de la population?
Ok. La médecine chinoise est de deux types. C'est la médecine conventionnelle telle que nous la connaissons ici, la médecine moderne, mais la Chine a aussi la médecine traditionnelle, la médecine à pieds nus. Eux, ils ont fait distinguer les produits à base de médecine traditionnelle. À ce moment-là, ils améliorent leurs produits et ça devient des médicaments améliorés. Et ils les mettent dans le secteur pharmaceutique et ces produits doivent respecter le secteur pharmaceutique, les normes du secteur pharmaceutique. Mais en même temps, il y a aussi des produits qui n'ont rien à voir avec les non-médicaments, mais ils sont beaucoup plus des produits additifs alimentaires. Ils sont utilisés comme des additifs alimentaires. Et là, ils ne répondent pas aux normes médicamenteuses, mais ils doivent répondre aux normes alimentaires. Voilà un peu ce qui peut être dit sur la médecine chinoise.
Alors, professeur Mvumbi, président de l'Ordre des pharmaciens, nous tendons pratiquement à la fin de cette émission. Quel conseil pouvez-vous donner aux auditeurs en ce qui concerne l'usage des médicaments?
Oh, si vous n'aviez pas posé cette question, j'allais quand même trouver un moyen pour vivre. Merci. <dit. rire> Eh bien, ici, je m'adresse à notre population. Notre population doit savoir qu'en matière du médicament, seul le pharmacien est responsable. Seul le pharmacien est spécialiste dans ce domaine-là. C'est le pharmacien qui prépare le médicament, qui le produit. Et quand il a produit ce médicament, en principe, il doit vérifier la qualité de ce produit en le mettant dans un laboratoire de contrôle de qualité et d'analyse. Lorsque ce produit s'est avéré de bonne qualité, on le met au dépôt. Et là, au dépôt, c'est encore un pharmacien qui assure la vente, la répartition, la distribution des médicaments pour la vente dans les officines. En principe, ce n'est pas n'importe qui doit aller dans un dépôt acheter. Normalement, c'est le pharmacien qui va acheter les médicaments au dépôt. Ce n'est pas le cas que nous voyons dans ce pays. Notre lutte consiste au fait que, bientôt d'ailleurs nous allons le déclarer, que ne peut aller acheter les médicaments au dépôt pharmaceutique s'il n'a pas un bon. Et ce bon ne peut être obtenu que par le pharmacien et auprès de l'ordre de pharmacien, avec signature de l'ordre de pharmacien. Ça, c'est notre problème, l'automédication. L'automédication, c'est se soigner soi-même avec du médicament. C'est ça, l'automédication. Prendre un médicament pour une maladie qu'on croit avoir. Malheureusement, ça cause du tort. Donc, si je peux demander, quand notre population veut avoir un médicament, il doit se munir d'une ordonnance et se présenter dans une pharmacie, poser la question sur le pharmacien présent. Quand le pharmacien n'est pas présent, la population doit douter de ces médicaments-là qu'on veut lui donner.
Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions le professeur Georges Nvumbilelo, président de l'Ordre des pharmaciens, à la réalisation Nadine Foula, à la technique Jean-Claude Nsiala. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Vous pouvez également y voir les photos de nos invités. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.